RCF.
Je pense, donc j'agis. Sur RCF et Radio Notre-Dame, avec Melchior Gormand.
Sur un terrain de foot, au détour d'un trail ou dans une salle de sport, on parle rarement de foi. Et pourtant, de plus en plus de chrétiens voient dans le sport bien plus qu'un simple loisir, un lieu où se joue aussi quelque chose de spirituel. Et depuis quelques années, la pastorale du sport tente d'ouvrir une brèche, faire du sport un terrain d'évangélisation, de fraternité et de rencontre. Alors face à une société où les églises se vident, mais où les stades se remplissent, l'église cherche à rejoindre les hommes et les femmes là où ils sont, sur le terrain, en short et en basket. Alors peut-on vraiment annoncer l'évangile entre demi-temps? Le sport peut-il devenir un nouveau terrain missionnaire? Autant de questions évoquées à l'occasion du tout premier congrès européen dédié à la pastorale du sport qui se tient à Metz depuis 3 jours. On va en parler avec nos invités et bien sûr, comme chaque matin, avec vos réactions et vos témoignages. Le sport peut-il être, d'après vous, un lieu où l'on vit sa foi autrement? Est-ce que l'église a sa place sur les terrains? Est-ce que les valeurs d'ailleurs du sport rejoignent celles de l'évangile? Peut-être que vous avez déjà vécu une expérience spirituelle à travers le sport. Ça nous intéresse au 01 56 56 44 00 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook de l'émission Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 01 56 56 44 00.
Et pour discuter avec nous jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir deux invités qui, justement, étaient au Congrès européen de la pastorale du sport. Philippe Gonigam, bonjour. En direct de nos studios qui se trouvent à Metz où justement s'est tenu ce congrès européen. J'espère qu'on va le retrouver dans quelques minutes. Il est délégué épiscopal pour la pastorale du sport. Alors, heureusement, avec nous, on a Isabelle de Châtelus. Bonjour Isabelle.
Bonjour Melchior.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur RCF et Radio Notre-Dame. Vous êtes chargé de mission sport à la CEF, la Conférence des évêques de France. Vous êtes aussi responsable d'Holy Games. On vous a beaucoup entendu, Isabelle, à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Là, c'est un tout autre événement auquel vous avez participé, ce congrès européen de la pastorale du sport. 3 jours, les 14, 15 et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Comment ça s'est passé? Isabelle.
C'était une première rencontre vraiment extraordinaire parce qu'elle a rassemblé une quarantaine de participants qui sont animés par cette même espérance que le sport est un lieu d'évangélisation. Et ça fait du bien de se retrouver. Parfois, on se sent un peu seul dans cette espérance d'annoncer le Christ dans le monde du sport. Il était bon de se retrouver tous ensemble, voilà, avec vraiment des horizons très différents, des perspectives nouvelles. Et puis, il y a un certain nombre de personnes aussi qui venaient donc de pays limitrophes pour nous partager leur expérience. Donc, on repart tous avec une énergie sportive nouvelle.
Oui, parce que c'est un congrès européen, Isabelle de Châtelus. Ça veut dire que plusieurs pays participaient, autres que la France.
Effectivement, c'est une initiative en fait qui fait suite à un certain nombre de congrès nationaux qui avaient déjà eu lieu à l'initiative de la pastorale du sport de Clermont, en l'occurrence le père Pascal Girard. Et il a eu cette intuition qu'il fallait élargir les perspectives. On avait déjà eu à plusieurs occasions des congrès, des sommets organisés à Rome par le Vatican. Oui. Et là, c'est la première fois qu'en France, cette proposition se déroulait, avec donc des participants de Belgique, de Suisse, d'Autriche, du Royaume-Uni, pour nous partager leur expérience de ce qui se vit aussi en termes de pastoral dans ces pays-là.
Alors, je crois qu'on a retrouvé Philippe Gonigam. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à tous.
Merci, ça y est, on est heureux de vous entendre dans cette émission. Alors, vous êtes toujours à Metz, où se tient encore aujourd'hui ce fameux congrès européen de la pastorale du sport. Est-ce que c'est un peu la suite des Jeux Olympiques et de tout ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était il y a un peu plus d'un an. Il y a eu une vraie mobilisation de la part de l'Église, d'ailleurs, autour du sport.
Alors, effectivement, c'est... Oui. Pardonnez-moi, c'est effectivement, on va dire, une suite. On parle souvent de l'héritage oui. Quand on parle des Jeux Olympiques de 2024. On est vraiment dans cette dynamique-là et grâce au dispositif Holy Games qui a effectivement mobilisé, qui a vraiment mobilisé, on va dire, les aumôniers, en tous les cas l'Église, à travers l'événement des Jeux Olympiques. Ben, c'est la continuité et... La réflexion que nous avons, c'est effectivement maintenant dire qu'est-ce qu'on fait avec ce qui s'est passé de très positif dans ce village olympique, dans ce centre multiconfessionnel, je pense qu'on va y revenir. Eh bien, c'est un peu cette suite et le congrès concrétise cette logique.
D'ailleurs, c'est vrai que depuis le début de cette émission, tous les trois, on utilise cette expression de pastorale du sport. Peut-être qu'on pourrait essayer de définir ce qu'on entend par ça, Isabelle de Châtelut.
La pastorale, c'est la manière de déployer la présence de l'Église dans un domaine spécifique. On parle de pastorale des jeunes, de pastorale des migrants, on parle de pastorale de la santé. C'est que l'Église va, dans un domaine de compétences particulier, s'attacher à se rapprocher des personnes qui vivent telle ou telle situation. Et donc c'est vrai que cette expression de pastorale du sport, elle est toute récente. Il faut imaginer que le sport, qui est dans sa conception contemporaine, donc assez récente, qui a émergé au 19e siècle, il a fallu quand même beaucoup de temps pour que l'Église pose des mots sur cette réalité. Alors je me souviens de certains papes de Pie XII disant « Comment l'Église pourrait-elle se désintéresser du sport ?» Mais c'est le pape Jean-Paul II qui, le premier, d'abord parce qu'il était un grand sportif qui pratiquait un certain nombre de sports, la natation, le ski, le foot, le canoë, qui disait même « Le sport est un don de Dieu ». En 2004, donc vraiment à la toute fin de son pontificat, il a choisi de créer une section Église et sport au Vatican. Et donc c'est la première fois en 2004 qu'on a commencé à s'autoriser à réfléchir à la pastorale du sport. C'est l'Église qui accompagne cette réalité. Et en France, c'est complètement naissant parce qu'il a fallu effectivement cette décision de Jean-Paul II pour qu'on commence à s'interroger. Et c'est notre pionnier en France, c'est le père Pascal Girard, donc du diocèse de Clermont, qui est le premier a eu cette initiative, avec bien sûr l'accord de son évêque, de se lancer dans cette pastorale du sport.
Et c'était en 2005, voilà, la première pastorale du sport. Quelques années plus tard, en 2013, ce même père Pascal Girard organisait le tout premier congrès national des pastorales du sport. Ça a été reconduit un petit peu plus tard. Ce qu'il faut noter également, Philippe Gonigam, c'est qu'en 2020, c'est le Vatican carrément qui a pris le sujet en main et qui a demandé à la CEF d'aller un peu plus loin sur ce travail Église et sport.
C'est vrai, alors je ne l'ai pas vécu directement, mais plutôt indirectement, puisque l'évêque du diocèse de Metz, alors que je n'étais pas du tout encore engagé dans cette voie de pastorale du sport à Metz, m'a sollicité parce que le départ du marathon, enfin en tous les cas, le marathon de Metz, qui devait partir du côté de la cathédrale, avait organisé sa conférence de presse dans la cathédrale. Et il s'était rapproché de moi parce que j'avais, on va dire, une culture sportive et puis un parcours sportif qui lui disait peut-être que je suis le bon client pour pouvoir l'accompagner dans cette démarche-là. Alors, l'ironie du sort, c'est qu'en fait, ce marathon ne se fera pas à cause du Covid, mais la pastorale du sport va bien démarrer à partir de cette réflexion en 2020, puisque j'ai pu participer également au congrès national qui m'a permis réellement de structurer le projet qui démarrera en 2023 sur le diocèse de Metz.
Parce que, justement, alors c'est l'occasion de parler de vous, Philippe Gonigam, vous m'avez fait une très bonne transition, vous m'avez même tendu la perche. Alors, c'est un mauvais jeu de mots, puisque vous n'êtes pas du tout spécialisé en saut avec la perche, mais plutôt, vous êtes athlète, vous l'avez été, en tout cas, international, vous étiez spécialiste du 400 mètres haies. Vous avez été, je crois, alors si je me trompe pas, si mes informations sont bonnes, champion de France en 1986.
Ben voilà, on parle de l'histoire. Alors c'est vrai que ça vous colle au basket, parce que très souvent, quand je suis avec des collègues, des anciens de l'UFCMS, on nous dit « bonjour les sportifs », alors que ça fait quasiment 30 ans qu'on n'est plus du tout des athlètes ou des sportifs, mais on a un CV qui s'arrête à une certaine période de notre parcours. Mais de façon très concrète, c'est vrai qu'on arrive avec notre parcours, notre histoire. Et comme l'a très justement rappelé Isabelle, c'est ce qui nous permet, en y ajoutant, on va dire, notre foi, à pouvoir mettre en place, activer cette pastorale du sport sur nos espaces, et notamment en ce qui me concerne sur le diocèse de Metz.
Alors Isabelle de Châtelut, justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu du sport, des valeurs qui sont partagées aussi entre à la fois la foi justement et le sport. Je pense à l'effort, le dépassement de soi, la solidarité, le respect, la fraternité. il y a des, comment dire, des valeurs communes entre le sport et la foi.
Il y en a beaucoup, et c'est ce qui explique d'ailleurs le déploiement du sport en France. C'est la plupart des sports, des associations sportives, des clubs que l'on connaît même aujourd'hui, ont été développés par des chrétiens. C'est-à-dire qu'au 19e, quand le sport apparaît, bien sûr d'abord au Royaume-Uni, pour au début occuper les élites, et puis dans toute cette perspective aussi d'armement, de réarmement dans notre pays, voilà, on a à ce moment-là développé toutes les activités physiques. Et au début du XXe siècle, beaucoup de chrétiens se sont saisis du sport. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le sport, il y a des valeurs extraordinaires. D'abord, de développement personnel, d'éducation des jeunes, de dépassement de soi, de respect de l'autre, d'humilité. Et en fait, quand on regarde, les valeurs originelles du sport, ce sont les mêmes que les vertus chrétiennes. Aujourd'hui, on voit le sport avec souvent ses dérives, parce qu'on voit notamment le football, qui est le sport numéro un en France et dans le monde, avec effectivement beaucoup de limites. Mais si vous regardez la finale du PSG, la finale en Ligue des Champions, ça restait un plaisir immense pour les yeux. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est une équipe qui a gagné, qui a remis au cœur du terrain des valeurs formidables de cohésion, de fraternité, d'esprit d'équipe. Donc je trouve qu'aujourd'hui encore, même dans un sport comme le foot qui est très abîmé, pour diverses raisons, on pourra y revenir, on voit ces vertus vraiment chrétienne. Ouais. Comment je respecte l'autre? Comment est-ce que je fais attention à l'autre? Quand je fais une passe, c'est vraiment tout bête, hein, sur un terrain de foot, quand on fait une passe à quelqu'un, on a besoin de l'autre, on a besoin de lui, on le met en valeur. C'est ça le sport, hein. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que le sport est considéré comme un vecteur premier d'éducation? C'est aussi peut-être parce que voilà, dans nos écoles, on n'est pas toujours au meilleur de ce qu'on peut pour éduquer nos jeunes. Et le sport reste un terrain extraordinaire pour transmettre des valeurs essentielles de cohésion de notre société.
Vous avez parlé du football. Il y a d'autres grandes compétitions, Philippe Gonigam, je pense au rugby en France, qui sont vécues comme, alors, je ne sais pas si je peux vraiment utiliser ce terme, mais comme des rituels un peu collectifs.
Oui, c'est vrai qu'on Philippe, peut faire très... Ouais. On peut faire le rapprochement, effectivement, entre ce qui se passe dans le mouvement sportif et puis dans l'Église. Hein, quand on parle de cathédrale, il y a des cathédrales qui sont des stades. On a des fidèles dans les tribunes. On peut faire des liens très forts. Mais concrètement, l'activité est pratiquée, ou les choix d'activité sont liés aux valeurs. Vous avez parlé du rugby. Et je pense souvent aux partenaires financiers qui vont d'abord s'intéresser à l'image que projette l'activité que peut être le rugby ou autre. Donc on voit bien que les valeurs portées par des disciplines sont inspirantes. Et en dehors du fait que c'est le mouvement sportif, c'est porté par des hommes. Donc chacun a en soi, on va dire, au fond de soi, des valeurs et se reconnaît dans certaines activités. C'est pour ça qu'il y a une multitude de disciplines. On peut parler des activités, des disciplines individuelles, collectives. Vous avez des sports de combat, des sports d'opposition. Donc clairement, on peut se retrouver dans l'ensemble des disciplines au regard des vertus. On parlait des vertus ou des valeurs que porte la discipline.
Isabelle de Châtelet, vous êtes d'accord? Ça complète un peu ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs.
Moi, je voudrais prendre un exemple très concret sur ce qui a été vécu pendant les Jeux Olympiques. Je pense que tout le monde se souvient du Cécifoot, qui était l'épreuve organisée pour les personnes aveugles, donc du foot pour personnes aveugles. Il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire pendant les JO, de communion, de respect de ce que les athlètes aveugles vivaient sur le terrain. Je ne sais pas si les auditeurs se rappellent de ces olas silencieuses. Vous parlez de rituels tout à l'heure. Il y a clairement dans les stades, des rituels. Alors, est-ce qu'on peut comparer ça à nos liturgies? Bien sûr que non, puisque la transcendance n'est pas la même. Mais il est évident que ce qui se vit dans un stade est de l'ordre de la communion. Moi, j'ose dire, peut-être que ça heurtera certains, que ce que j'ai vécu pendant les Jeux Olympiques en étant à Paris pendant les 3 semaines l'été, puis après pendant les Paralympiques, c'était de l'ordre d'un avant-goût du ciel, de communion. Moi, ce que j'ai vécu dans les rues, c'est toutes les nations rassemblées, c'est une vraie fraternité, une vraie joie d'être ensemble, une communion. Et très honnêtement, cette paix et cette joie qu'on a vécue pendant les Jeux, oui, elle avait une dimension transcendante. Et moi, je me dis, ben voilà, probablement qu'au ciel, toutes les nations seront réunies dans cette même paix. Et je pense que le sport, voilà, sans vouloir tirer des ficelles trop longues, peut vraiment nous faire expérimenter cette fraternité, cette communion. Moi, je vais souvent dans les stades, hein, j'aime beaucoup aller dans les stades de foot. Vous vous retrouvez dans les bras de votre voisin que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, que vous auriez jamais rencontré. On est tous en maillot de supporters. Il y a quelque chose de tout simple. Voilà, c'est une relation toute simple qui se crée à l'autre, qui est une charité. Voilà, ben voilà, je tombe dans les bras de l'autre, mais je l'aime tout simplement. Alors bon, pour des choses peut-être futiles, hein, mais on apprend à s'aimer tout simplement grâce à ça.
Il y a une communion. Ouais, oui, tout à fait. Il est un peu plus de 10h15 sur RCF et Radio Notre-Dame. Et vous l'entendez ce matin, on parle du sport et de la foi à l'occasion du tout premier congrès européen dédié à la pastorale du sport qui se tient à Metz depuis 3 jours. Vous êtes les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que, d'après vous, le sport peut être un lien où l'on vit sa foi autrement, un lieu, pardon, où l'on vit sa foi autrement? Est-ce que l'Église a sa place sur les terrains? Est-ce que les valeurs de sport rejoignent vraiment celles de l'Évangile? Et peut-être que vous-même, vous avez déjà vécu une expérience spirituelle à travers une pratique sportive. Appelez-nous, réagissez au 01 56 56 44 00 ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Présenté par Melchior Gormand.
Et toujours en direct jusqu'à 11h avec nos deux invités. Isabelle de Châtelut, vous êtes chargée de mission sport à la CEF, la Conférence des évêques de France, et vous êtes aussi responsable d'Holy Games. Et puis Philippe Gonigam, vous êtes délégué épiscopal pour la pastorale du sport et vous êtes notamment dans l'organisation de ce fameux congrès. Léonie est avec nous. Bonjour Léonie.
Bonjour Melchior, bonjour vos invités. Je rigole parce que je suis très contente d'entendre ça. Un congrès pour qui réunit les sportifs et tout de voilà. Donc moi je suis très contente et j'ai été touchée comme disait Isabelle, c'est ça Isabelle? Comme oui. Je disais quand il y a eu les Jeux Olympiques, j'ai pas été mais j'ai suivi tout à la télé et tout, j'étais très contente qu'il y ait même une messe dédiée aux sportifs et tout, je me dis ah voilà. Donc moi, je suis très favorable à ça. L'Église a les mêmes valeurs, les valeurs communes, pas tous, mais les valeurs, quelques valeurs communes avec le sport. Et ne serait-ce que quand je suis devant la télé, je suis pas trop. J'ai moi-même dans la journée, j'ai joué au basket et on chantait quand on priait avant de rentrer dans quand il y a des rencontres. Et au niveau scolaire, hein, j'allais dire. Par contre, je suis très contente quand je vois un joueur, par exemple, qui marque un but, qui fait le signe de la croix. Ou bien un autre qui veut faire un remplacement, qui fait le signe de la croix, et même, je crois, les Ronaldinho, ou bien les trucs là, pareil. Donc, moi, je pense que s'ils font le signe de la croix, c'est qu'ils sont chrétiens, ils pensent à ce Dieu-là qui nous aide, des fois. Voilà.
Donc, merci.
C'est mon témoignage.
Merci, Léonie. Merci beaucoup. Belle journée à vous aussi. Merci de nous avoir appelés dans Je pense donc j'agis. Philippe Gonigam, c'est un témoignage intéressant d'une auditrice et puis supportrice aussi certainement qui quand elle observe certains joueurs qui font parfois un signe de croix, il y a des petits rituels, des petits symboles aussi qui s'observent dans la pratique sportive.
Alors absolument. Donc Isabelle évoquait ce temps de communion qu'on a pu vivre aux Jeux Olympiques quand on était dans les tribunes. Je voudrais vous partager également ces temps qu'on ne voit pas forcément, qui sont ceux des sportifs dans les vestiaires. Alors j'étais dans une discipline individuelle, donc j'étais pas avec l'équipe de France dans le vestiaire, donc avec toute l'équipe de France, mais j'étais avec mes adversaires dans la chambre d'appel. Et donc ce temps, c'est 3 quarts d'heure où vous attendez de rentrer sur le stade. Et évidemment, 3 quarts d'heure, ça peut être très court, mais parfois ça peut être très long. Et quand il y a un enjeu de finale, de demi-finale, et que vous êtes face à vos adversaires, eh bien, il y a ce temps un peu suspendu qui correspond réellement à un temps de transcendance, où il y a un profond respect, où globalement, on sait que chacun est concurrent de l'autre, mais avec, on va dire, ce partage d'un temps qu'on sait que, de toute façon, on va vivre un moment exceptionnel qui va être dur, on a peur, et concrètement, ce temps-là était vraiment un temps très spirituel. Alors, je ne sais pas si on peut parler de religion ou on peut parler de rituel, mais on est dans cette dimension-là. Et dans le sport collectif, fatalement, on retrouve la même dimension, mais de façon collective, et ça devrait être encore plus profond, mais un peu différent.
Oui. Isabelle de Châtelut, sur ce témoignage de Léonie et puis les propos de Philippe Gonigam, c'est assez intéressant.
Oui, moi je suis très heureuse d'avoir entendu Léonie, qui me réjouit le cœur. Voilà, effectivement, elle rappelle plusieurs choses. Elle rappelle qu'on voit pas mal de sportifs qui font des signes de croix ou qui manifestent en tout cas leur foi. C'est une réalité. On a vu par exemple à la finale du PSG, Désiré Doué qui marque un but et qui, quand il est interviewé juste à la fin du coup de sifflet final, remercie Jésus. Voilà, c'est la première chose qu'il dit. Je remercie le Seigneur pour cette victoire, pour ce qu'il a fait pour moi. Je voudrais aussi parler justement un autre joueur du PSG dont on parle ces temps-ci, qui est un ancien gardien de but du PSG, Sergio Rico, qui avait subi un très grave accident, qui a été pendant 3 semaines dans le coma en 2023. Et nous, chez Holy Games, nous savions qu'il était chrétien, puisqu'il l'avait déjà manifesté. Et on avait eu l'initiative de demander une messe, qu'une messe soit dite pour lui à la chapelle des sportifs à la Madeleine. Et j'ai lu un article extraordinaire aujourd'hui où il témoigne du fait que c'est un miracle pour lui, cette guérison. Et je me dis, lui, il a cru au milieu de son expérience sportive que le Seigneur l'accompagnait. C'est ça la pastorale, c'est qu'en fait, quelle que soit notre activité, le Seigneur est là. On a eu souvent tendance dans le passé récent à mettre la foi à côté de nos activités. Et en fait, la pastorale du sport, c'est une manière de redire que oui, le Christ est notre foi et nous habite pleinement dans ce qu'on fait, y compris quand on est sur un terrain. Merci Philippe pour ton témoignage aussi de cette chambre d'appel. Et donc, moi, quand on voit souvent des joueurs faire leur signe de croix, j'entends des personnes dire « bon, c'est du fétichisme ». Moi, honnêtement, je ne le crois pas. Pour maintenant fréquenter pas mal de joueurs de football ou d'anciens, non, en fait, ils sont habités de cette foi et je trouve très beau. Oui. C'est même assez courageux pour eux de témoigner. Bah oui, le Seigneur est là et le but que j'ai marqué, en fait, bah oui, c'est je lui rends grâce pour les dons qu'il m'a fait, pour les talents qu'il m'a donné. Voilà, et merci à eux d'oser témoigner de leur foi à travers le sport.
Et c'est un peu ce que voudrait nous raconter Claude au 01 56 56 44 00. Bonjour Claude.
Oui, bonjour.
Eh bien, voilà. On vous écoute.
Alors, j'ai deux petites choses, parce que j'écoutais pas la radio au moment où j'appelais, pour pas faire, d'effet. Et donc, je sais pas si vous avez évoqué la Paix des Champs à Auxerre, mais c'est le stade qui est emblématique de la ville d'Auxerre. Mais moi, mon témoignage, il porte sur le côté, justement, l'activité sportive, quand elle nous pousse dans nos retranchements absolus, elle rejoint où on a même besoin de la force spirituelle. Moi, je fais des marathons et quand je termine des marathons, des fois, je pense que je vais les abandonner. Mais quand je les termine, je fais ce signe de croix dont on vient de parler. Et alors, en termes de quête absolue ou de expérience ultime, moi, je voulais apporter pas le témoignage, mais l'exemple extrême des rugbymens uruguayens qui, en 1973, ont eu l'accident d'avion dans la cordillère des Andes. Le sport les a amenés dans une constitution physique qui leur a permis de survivre. Pour ceux qui ont survécu, et on sait comment, vous savez lire le livre « Les survivants » de Pierre-Paul Reid. Mais aussi la foi, c'était une école religieuse, donc ils pratiquaient le rugby justement comme un ciment aussi à leurs études et à leur spiritualité, c'était un tout. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ils se sont retrouvés dans la Cordillère des Andes, c'était pour un match qu'ils devaient faire avec une équipe chilienne. Et c'est intéressant de relire, de redécouvrir cette histoire, parce que on voit comment cette structure d'équipe a permis avec la spiritualité de faire tenir tout ça et la relation entre eux est forte à cet égard.
Eh ben, écoutez Claude, merci beaucoup vraiment d'être venu à l'antenne pour nous raconter cette histoire. Isabelle de Châtelut, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu étudier également. Hein, ça remonte à 1972, hein, comme nous l'a dit Claude.
Effectivement, il y a beaucoup d'équipes de rugby, notamment aujourd'hui toutes les équipes Fidji, toutes ces équipes des îles, qui ont encore une pratique du rugby très ancrée dans la foi, c'est-à-dire qu'ils prient ensemble dans les vestiaires.
Il y a une force commune en fait.
Oui. Et moi je dois dire qu'on a vécu quelque chose de très fort à l'occasion de la dernière Coupe du Monde de rugby en France. On a accueilli l'équipe de France de rugby sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Ça a été un moment assez extraordinaire qui a été possible grâce à Max Guazzini, qui là encore est un chrétien ancré, un sportif ancré dans la foi. On avait fait venir l'équipe de France à Notre-Dame quelques jours avant leur match perdu malheureusement contre l'Afrique du Sud. Et voilà, ça a été un moment très fort. Certains joueurs ont demandé à être bénis par l'évêque qui était présent. Voilà, ça a été fait, j'ai envie de dire, en toute discrétion, mais dans une foi profonde. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique de voir ces joueurs qui sont vraiment sous le feu des projecteurs. Tous leurs gestes sont épiés. De voir que certains arrivaient à garder cette foi profonde. Parce qu'il faut bien voir que dans ce monde du sport ultra médiatisé, c'est difficile de garder les pieds sur terre. Et je pense que pour certains croyants, la foi est primordiale. C'est-à-dire pour garder les pieds sur terre, pour rester fidèle à ce que l'on est, la foi est absolument nécessaire. Hein. C'est pour ça que moi, parfois, dans l'Église, on nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans, là, le sport ? Pourquoi l'Église se préoccupe de cette réalité ?» La vie des joueurs professionnels peut être d'une grande, grande pauvreté, d'une grande solitude, d'une grande fragilité. Et donc la foi est certainement pour eux essentielle pour les conduire sur leur chemin professionnel et leur vie quotidienne de sportif de haut niveau.
Philippe Gonigam, ça vous parle ? Est-ce que vous vous retrouvez dans l'athlète que vous êtes encore aujourd'hui, mais que vous avez été en tout cas il y a quelques années ?
Enfin, en tous les cas, je retrouve... ces éléments dans les athlètes que je côtoie aujourd'hui. Vous savez, les préparations sportives sont des préparations intenses. On les prépare à des niveaux de performance qu'on n'appelle même plus performance, mais haute performance. On est sur quasiment de l'inhumain, ce qui impose un travail acharné. Et fatalement, donc, on est sur des démarches de prise de risque. On est toujours limite par rapport à la blessure, qu'elle soit physique ou psychologique. Donc fatalement, on est en face de la souffrance. Et dans ce contexte-là, l'Église a toute sa place parce que non seulement elle est là pour les gens qui souffrent, mais elle est présente pour les accompagner. Et revenir au sport de haut niveau, c'est se dire aussi que des grandes performances, un titre olympique, vous savez, il y a des fois de très mauvaises raisons pour faire de la performance, ou on les fait pour peut-être de mauvaises raisons. À l'inverse, on peut donner du sens à un parcours sportif, à des résultats. Vous savez, vous me posez la question à moi et par rapport à mon expérience professionnelle, si je vous dis que j'ai quasiment passé 20 ans de ma vie à courir plus vite qu'un autre, ça peut être considéré comme quelque chose de pauvre comme projet. Néanmoins, quand on y donne un sens, quand on arrive à comprendre qu'on est en train de fabriquer des capacités de travail, qu'on est en situation où, grâce à ça, on est exposé, qu'on peut communiquer, qu'on peut en fait hériter de ce parcours pour en faire quelque chose de beau, ça a plus de sens. Et c'est là où la foi peut intervenir, où elle va donner, on va dire, pas dire une raison valable, mais simplement pouvoir situer la performance comme quelque chose qui nous dépasse. Et ça, c'est important, parce que si on considère que la performance est simplement fabriquée par l'athlète, ça peut être dangereux pour lui, parce qu'il peut se considérer comme un dieu.
Allez, 10h30 sur RCF et Radio Notre-Dame. On marque une petite pause dans Je pense donc j'agis. On se retrouve dans un instant, toujours avec vous deux et puis avec vos témoignages, tout comme Léonie et Claude. Est-ce que le sport, selon vous, est peut-être un lieu où l'on vit sa foi autrement ? Est-ce que l'Église a sa place sur les terrains ? Peut-être que vous-même, vous avez déjà vécu une expérience spirituelle à travers le sport. Ça nous intéresse. Et puis dites-nous si les valeurs du sport rejoignent celles de l'Évangile. On vous attend 01 56 56 44 00. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Présenté par Melchior Gormand.
Et toujours en direct jusqu'à 11h pour parler du congrès européen de la pastorale du sport. Le sport et l'Église, c'est tout un programme. On va continuer d'évoquer tout ça avec nos deux invités. Le temps d'écouter une chanson tout de suite de Garou. On se retrouve juste après.
Chaque jour, on s'invente un détour. c'est notre façon de fuir. Et on sait si bien comment faire le sourd pour justifier nos délires. Est-ce qu'on est prêt pour les vraies décisions et remplir enfin notre mission? Avec le temps, on s'entend pour écrire le refrain.
Un meilleur lendemain, c'était une chanson de Garou pour vous accompagner en ce jeudi matin sur RCF et Radio Notre-Dame. Vous l'entendez, on parle du sport et de l'église en même temps à l'occasion du tout premier congrès européen de la pastorale du sport qui se tient à Metz depuis quelques jours. Organisé notamment par vous, Philippe Gonigam. Je rappelle que vous êtes délégué épiscopal pour la pastorale du sport dans ce diocèse. Et puis Isabelle de Châtelut, chargée de mission sport à la CEF, la conférence des évêque de France et responsable d'Holy Games. Bonjour Sarah.
Bonjour. Je voulais laisser mon témoignage. Plus que jamais, le sport a sa place à l'église. Rappelez-vous quand les coéquipiers de Joël Abadie l'appelaient le révérend, ils priaient ensemble et c'est ainsi qu'ils ont pu gagner toutes les marches de handball. Merci.
Merci beaucoup Sarah, ça a fait rire nos deux invités ce matin, Isabelle de Châtelut.
Oui, mais je ris parce que c'est vrai, parce que Joël, est, effectivement Joël Batty, qui était capitaine, si je ne me trompe pas, de l'équipe de France de hand, est un chrétien qui témoigne de sa foi de manière extraordinaire. Je ne sais pas si c'est ça qui les a fait gagner, mais en tout cas, ça les a fait certainement jouer ensemble, c'est ça la clé. Et Joël est aujourd'hui un chrétien qui témoigne à l'occasion de pas mal d'événements, donc... c'est effectivement beau et bon de voir l'Église présente dans ces milieux-là et à l'occasion de ces belles victoires, même si on sait très bien que c'est pas voilà, c'est, on prie pas pour gagner, on prie pour être donner le meilleur de soi-même, pour vivre une belle communion, pour être certain que voilà, on respecte les partenaires et qu'on respecte l'adversaire. Je crois que c'est vraiment ça qui soude après une équipe qui peut-être va gagner du coup, mais merci en tout cas pour ce beau témoignage.
Philippe Gonigam, si on fait un peu plus le focus justement sur ce congrès de la pastorale du sport, il y a différentes thématiques que vous avez voulu aborder avec des invités, des témoins également. Comment développer cette pastorale du sport dans les diocèses? Alors c'est un peu ce dont on parle depuis le début de cette émission, et puis un peu aussi dans la lignée du père Pascal Girard qui en 2005 avait eu cette intuition en tout cas de développer la pastorale du sport sport dans le diocèse de Clermont. Il y a aussi le sport comme terrain de mission. Ça, on va en parler dans cette émission. Et puis, le renouveau des patronages. Alors, on en avait parlé il y a quelques années dans Je pense donc j'agis. Est-ce que pourriez-nous rappeler ce qu'on entend par patronage, Philippe?
Eh bien, historiquement, c'est des dispositifs qui ont vu le jour au sein des paroisses dans les années 1800, où un contexte social et économique ont fait que certains jeunes étaient plutôt dans la rue qu'à l'école ou ailleurs, et les prêtres ont pris l'initiative, ou un prêtre a d'abord pris l'initiative d'utiliser le sport comme moyen d'éducation pour regrouper ces jeunes et pour pouvoir intervenir et leur faire vivre des temps de rencontres. Et ça s'est structuré au fur et à mesure, alors d'abord dans les grandes villes, et ça s'est structuré autour de la loi 1901, parce que 100 ans après, ils ont pu se constituer en association et en fédération. Et ça a amené à un volume de pratiquants, et là je vous parle sur le plan sportif, à 800 000 licenciés, une fédération à 800 000 licenciés, c'est énorme. L'athlétisme, à l'heure où on se parle, c'est 300 000 licenciés. Le handball, on parlait du handball tout à l'heure, c'est 500 000 licenciés. Donc dans les années 1950, cette fédération qui partait des paroisses a mobilisé 800 000 jeunes. Et donc le sport a réellement été cet outil de développement. On a parlé tout à l'heure de l'abbé Deschamps. Eh bien c'est encore cette histoire de patronage qui s'est transformée en club de football, parce que c'était multisport. Et puis il y a des clubs qui se sont orientés vers une discipline de façon spécifique. Ça pouvait être le basket ou autre. Et donc on peut dire que l'Église a participé à la structuration du sport en France. Et puis il y a eu deux phénomènes, le retrait de l'Église dans les années 1960, et puis le changement de la gouvernance du sport après les Jeux de Rome, où les fédérations ont pris la responsabilité de la préparation des compétitions, et l'éducation a basculé dans de l'éducation nationale.
Isabelle de Châtelut, le patronage, c'est vraiment, comme l'a dit Philippe Gonigam, je vais pas dire comme un centre de loisirs, mais on s'y approche.
Le patronage, on s'y est arrêté dessus là au congrès pendant toute une matinée, et c'était un moment très important, parce qu'en fait le patronage, il est à la racine du développement du sport en France, comme le rappelait Philippe. Aujourd'hui en Ligue 1, par exemple, de foot, il y a trois clubs qui sont issus de patronage. Donc on parlait d'Auxerre, mais il y a Montpellier, Brest, si vous regardez, c'est des patronages qui bien sûr ont fusionné après avec d'autres clubs. Mais qu'est-ce que c'est le patronage? On s'est rappelé au congrès, le patronage c'est le lieu où on dit « ici on joue et on prie ». Le patronage, c'est le sport pratiqué comme un jeu. Et donc, c'est la manière de faire vivre aux jeunes, aux plus jeunes, la joie de la rencontre, la joie du jeu. Et à travers le jeu, je découvre le Christ. Je découvre celui qui m'aime, je découvre l'amour, je découvre toutes ces valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Donc, le patronage, c'est un terrain de jeu extraordinaire, parce que le sport y est resté, j'ai envie de dire, dans ses valeurs originelles les plus belles. Hier, lors du congrès, l'un des participants nous rappelait que lorsque son équipe de foot participe à des tournois, parce que les patronages ont des équipes de foot qui vont participer à des tournois de la Fédération française de foot, quand ils participent à ces tournois, la clé, c'est que les joueurs du patronage, on leur apprend à ne pas faire de mauvais gestes, à ne pas avoir de mauvaises attitudes, à ne pas répondre à un acte d'anti-jeu par un acte d'anti-jeu. Donc il y a tout ça qu'on apprend au patronage, que le sport reste un jeu. Voilà, et ça c'est vraiment très important. Aujourd'hui, les patronages se redéveloppent de manière extraordinaire sur tout le territoire. Certaines congrégations, comme la Société Saint-Vincent de Paul, les Salésiens, qui ont constamment continué à ancrer leur pastoral dans le sport. Et puis, il y a eu des initiatives, bien sûr, comme celle de Mgr Lustiger, de développer un renouveau des patronages, notamment sur Paris, qui s'est déployé également dans toutes nos régions. Les patronages, c'est vraiment un lieu extraordinaire. Et hier, à l'occasion du congrès, il y a des jeunes qui sont venus témoigner de la manière dont ça avait transformé leur vie, un peu à la manière du scoutisme. Certaines personnes vous diront, mais en fait, c'est le scoutisme qui m'a conduit aujourd'hui où je suis. Et d'autres vous diront, mais le patronage, ça m'a construit en tant que personne, parce que c'est un lieu où je pouvais aller à tout moment pour jouer. Et l'une des forces du patronage aujourd'hui, et un des points d'attention qu'on a souligné à l'occasion de ce congrès, il y a beaucoup de patronage aujourd'hui qui se développe autour de l'aide aux devoirs. C'est une bonne chose, mais le patronage doit rester un lieu de jeu. Voilà, un lieu de jeu. où l'enfant est heureux de venir parce qu'il va y découvrir la joie du jeu. Voilà, et bien sûr qu'il est bon après de compléter avec l'aide aux devoirs, mais le patronage, c'est d'abord le lieu où on joue et on prie.
On joue, et il y a aussi une forme de divertissement aussi à travers ce jeu, évidemment, ça, ça va ensemble. Alors, on a Jacqueline au 01 56 56 44 00. Bonjour Jacqueline.
Bonjour, bonjour. J'écoute votre émission avec beaucoup d'intérêt. Je suis une très vieille dame, j'ai 86 ans, pas sportive pour deux ronds, mais mes revenus en mémoire, les stades utilisés par les papes pour célébrer des messes quand ils vont dans des pays. Parce que un jour, il y en a, j'avais entendu, il y a les mêmes valeurs, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la religion. Respecter l'autre, et on a besoin de l'autre. Voilà mon petit témoignage.
Mais c'était un témoignage très intéressant, Jacqueline. Moi, ça me fait penser à l'avenue du pape François à Marseille, il y a quelques années, où il avait justement donné une messe au sein du stade Vélodrome. Je me souviens, j'y étais, il y avait un tifo des supporters à l'effigie du pape, Isabelle de Châtelus. Ça, c'était assez impressionnant. Je ne sais pas si vous y étiez, mais c'est vrai qu'on n'était pas loin d'un match de foot.
Oui, en fait, l'histoire de Marseille, elle est quand même très spécifique. C'est-à-dire que le foot là-bas est vécu comme une religion. C'est la réalité. Mais en même temps, dans le stade, au Vélodrome, il y a quelque chose de particulier. Et la manière dont le pape a été accueilli là-bas a été extraordinaire. Ce que je voudrais souligner, c'est que par exemple, il y a des travaux qui sont réalisés à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, et l'OM fait partie des partenaires financiers pour restaurer. Donc je trouve ça vraiment intéressant de voir que dans certaines situations, oui, le sport et la foi sont tellement liés qu'on travaille ensemble pour restaurer le beau et le bien. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que dans les stades, Jacqueline a raison, il se vit des choses étonnantes. On a vu l'année dernière, à Lille, à Lyon, des tifos. Alors les tifos, pour ceux qui connaissent pas, vous savez, c'est quand, ouais, les supporters animent une tribune avec des décorations toujours assez extraordinaires. Il y a eu un immense tifo à Lille pour honorer Notre-Dame de la Treille. Il y a eu un immense tifo à l'Olympique Lyonnais pour aussi honorer Notre-Dame. Voilà, il y a quelque chose d'étonnant qui se joue dans les stades. Effectivement, on y revient, de cette communion, de cette recherche de transcendance. Et je trouve ça bon de rappeler que, bah oui, nos papes ont compris qu'il se jouait quelque chose de particulier. On a la chance d'avoir un... Nous, on a été très heureux de voir qu'on avait un pape américain qui est pétri de cette culture aussi sud-américaine, qui aime beaucoup le sport. Et moi, je me dis qu'il ne serait pas impossible qu'il vienne nous voir dans un de nos stades.
On l'espère.
Voilà, dans les prochaines années.
Philippe Gonigam, est-ce qu'il faut que les messes soient organisées dans les stades, désormais?
Alors c'est une question particulière. Est-ce que, alors en clair, les stades c'est fait pour faire du sport, mais c'est vrai que ça se prête bien à rassembler. Ouais. Quand vous me posez cette question, je pense que c'est vrai que ça a souvent été utilisé. On rappelait ce qui s'est passé à l'OM. Donc finalement. C'est pas parce qu'on y fait du sport, enfin en tous les cas, je voudrais simplement dire que quand on parle du sport, quand on parle de match, c'est d'abord une rencontre sportive. Donc à partir du moment où on reste sur la logique de rencontre, eh bien je trouve que ça a un intérêt. Voilà.
Juste pour compléter peut-être...
Oui, j'ai fait exprès de poser cette question de manière évidemment cash, hein. Mais parce que je trouve que... On se rapproche un petit peu de ça quand on parle de communion, de rencontre, de la foi comme un événement où justement on peut partager quelque chose. C'est exactement ce qu'on ressent. Je parle d'un match de foot, ça peut être autre chose, Isabelle de Châtelus.
Oui, il y a quelque chose qui se joue. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on voit que voilà, nos églises le dimanche matin sont souvent un petit peu vides. Et j'étais frappée l'année dernière, on avait organisé une grande course à Paris, le Paris Église Tour, où on a eu 3200 participants, donc une course de 10 km dans les rues de Paris. Et le curé, Monseigneur Patrick Chauvet, qui est le curé de la Madeleine, dans l'église dans laquelle ce 10 km se terminait, a commencé sa messe qui terminait ce parcours de 10 km en disant « Je n'ai jamais vu autant de gens courir pour aller à la messe ». Et cette phrase m'a beaucoup amusée, et maintenant je la dis souvent aux prêtres qui me disent « Mais pourquoi est-ce que tu veux que je m'intéresse au sport? Je dis, bah, si tu veux remplir ton église, organise une course avant, et puis tu vas avoir plein de monde qui va débarquer à ta messe du dimanche. Il y a vraiment ce lien intéressant à creuser. Ouais. C'est un des fruits de ce congrès. Là, on repart tous en se disant, il y a des liens très concrets, il y a des choses très faciles à mettre en œuvre pour que ce qui se joue dans les stades, en fait, viennent se vivre surtout dans nos églises, à la rencontre du Christ. Mais ce qui est bon aussi de rappeler, c'est que on peut rencontrer le Christ, bien sûr, en dehors de notre église. On peut le rencontrer sur un terrain. On a vécu pas mal de choses intéressantes avec Holy Games pendant les Jeux, à l'approche des Jeux. Je me souviens de ce match interreligieux avec un rabbin, un imam, un évêque sur le même terrain. On était sur un terrain, on a pu vivre un temps de prière en commun. Il s'est vécu quelque chose de très très fort spirituellement. Voilà, on était juste sur un terrain, mais c'est probablement des actes qui nous conduisent justement à renforcer notre foi et notre espérance dans une fraternité possible.
Marjorie, bonjour.
Oui, bonjour. Bon, voilà, moi j'interviens vraiment en simple coureuse. Bon, déjà, je tenais à remercier Radio Notre-Dame et vous tous, animateurs, parce que Radio Notre-Dame m'accompagne chaque jour et j'avoue que je ne m'enlace pas de vous écouter. Donc ça, c'était pour commencer. Alors moi, je voulais vous parler de la course à pied. Et effectivement, par rapport au réveil à la foi, alors au tout départ, ce n'est pas ce qui me vient, mais cette émotion vraiment assez forte qui dépasse soi, t'amène à quelque chose de beaucoup plus grand et c'est vrai que ça m'évoque très fort cette foi qui grandit, moi je trouve, à chaque fois que je cours et notamment lors des courses à pied quand je suis prise souvent d'une grande émotion de nous voir tous comme ça courir simplement dans cet effort de volonté, c'est assez puissant.
Merci beaucoup Marjorie pour votre témoignage. Merci d'être intervenue sur Radio Notre-Dame et RCF. Je tiens à le rappeler puisqu'on fait antenne commune, hein, évidemment, depuis déjà quelques mois. C'est très fort, Philippe Gonigam, je trouve, ce témoignage de Marjorie qui nous dit une simple coureuse et pourtant elle ressent cette émotion, une foi finalement qui la motive quand elle court.
Oui, et je pense que Marjorie a effectivement vécu ce qu'on vit quand on est dans une démarche de pèlerinage, parce que la plupart des pèlerinages se font à pied. Et donc, c'est des temps de marche, et donc le mouvement est inspirant. Et je pense à ce qu'elle a vécu, et elle l'a très très bien raconté.
Moi, ça me rappelle le père René Pichon, qui est un prêtre, oui, alors qui est aujourd'hui un certain âge, mais qui est un des pionniers aussi de la pastorale du sport, qui a beaucoup écrit sur ces questions. Et lui, il courait peut-être 50 km par jour, quelque chose comme ça. Et il nous disait, quand je vais courir, il y a un moment où j'en peux plus, je vais au-delà de moi-même. Il y a quelque chose qui me pousse à aller dans l'au-delà de moi-même. Et c'est dans l'au-delà de moi-même que je rencontre le Seigneur. Et il nous disait, on découvre une forme de transcendance dans le dépassement de soi. J'y pense souvent quand je regarde les cyclistes du Tour de France qui font des choses complètement inhumaines et qui, je pense, à travers ce dépassement, dans cet au-delà de soi, de soi-même, peuvent expérimenter cette rencontre avec le Seigneur.
Le père René Pichon, qu'on avait reçu d'ailleurs dans Je pense donc j'agis il y a quelques années. On arrive doucement à la fin de cette émission, ça passe très vite et il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette pastorale du sport. Ce que j'entends quand même à travers vos deux témoignages ce matin, Isabelle et Philippe, c'est que l'Église a peut-être de la matière, en tout cas pour, entre guillemets, utiliser le sport afin de pas d'évangéliser, mais en tout cas d'aller peut-être chercher un public différent, qui n'est peut-être pas très sensible au discours de l'Église. Justement, en termes de discours, il faut réussir à trouver un langage commun entre foi et sport, Isabelle de Châtelut. Vous avez cité tout à l'heure le football, et je me le suis noté, vous avez dit que c'était un sport qui était abîmé actuellement.
Oui, c'est un sport dans lequel on voit beaucoup de violence. Je ne sais pas si certains des auditeurs lisent les journaux sportifs, mais il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on voit sur des terrains de foot des violences absolument inacceptables, avec même des parents qui prennent la partie des jeunes. Donc ça nous interroge beaucoup sur ces dérives liées au sport. Je crois que malheureusement, ce sont plutôt des reflets de notre société. Typiquement, quand on voit également ce qui s'est passé après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, avec ces violences dans les rues qui pour moi n'ont rien à voir hein, en fait avec ce qui se joue sur un terrain et ce qui a été vécu par ceux qui aiment vraiment le sport. Donc oui, le sport peut abîmer et c'est aussi pour ça qu'il est fondamental que l'Église se penche sur cette réalité. Aujourd'hui, on peut estimer que 80% des gens sont concernés par le sport, soit en le regardant, soit en le vivant, soit en emmenant leurs enfants, etc. Donc cette réalité sociale, sociétale, elle est prégnante aujourd'hui dans notre société, il est bon que l'Église pose un regard, qu'elle vienne dire attention, il y a des limites, attention là, on a vu récemment notamment des Olympiades augmentées où les participants étaient autorisés à se doper. Voilà. Quel regard l'Église va porter sur ça? Comment est-ce que l'Église va accompagner des nouvelles réalités? Moi je m'intéresse beaucoup aujourd'hui à ce qui se vit avec des applications comme Strava où les gens courent et publient sur les réseaux sociaux leur course, leur dernière course.
Leur temps de parcours.
Leur temps de parcours. Donc il y a un phénomène étonnant qui se développe. Qu'est-ce que ça dit de notre humanité? Ce besoin de partager. On est dans une société très individuelle où je cours tout seul, souvent, mais j'ai envie de partager. Donc je trouve que l'Église, elle a...
Partager sa réussite, finalement.
Oui. Partager sa réussite, partager ses limites aussi. Moi je suis touchée de voir que tous ceux qui sont sur ces... sur ces applications, ont envie aussi de partager quelque part leur effort, une part de leur souffrance. Il y a quelque chose de cette souffrance que j'ai vécue, j'ai envie de la partager avec d'autres et j'ai envie qu'on fasse communion autour de ce que j'ai pu vivre. Et il est vraiment bon que l'Église s'arrête. On a pu s'interroger lors du congrès sur, par exemple, le développement du e-sport. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui le e-sport? Est-ce que on a envie de rejeter cette réalité en disant non, en fait c'est pas du sport, ce sont des gens qui sont derrière des écrans, donc on ignore? Ou bien on se dit tiens, il y a matière à venir habiter cette réalité. Moi j'avais lancé comme ça un défi à un prêtre en lui disant le mercredi après-midi t'as personne au caté, pourquoi tu ouvrirais pas un concours de e-sport dans ta paroisse? Et les jeunes au lieu de jouer à FIFA dans leur chambre, chacun chez soi, viendraient ensemble vivre quelque chose. Donc l'Église, elle est là pour interroger nos réalités, pour accompagner, pour orienter aussi certaines de nos pratiques.
Un petit témoignage de Damien qui nous parle de l'implication des évêques français dans le sport, notamment Mgr Dolman, évêque dans le diocèse de Cambrai, qui a proposé d'aller courir avec lui en personne. C'est en septembre 2025. Et puis il nous dit aussi, j'ai aimé le témoignage de votre intervenante au sujet des footballeurs qui rendent grâce après un match. Et afin de compléter, je pense qu'Olivier Giroud, joueur actuellement de Lille, mérite également d'être cité pour son comportement en tant que catholique sur et en dehors du terrain. C'est vrai qu'il y a encore plein de choses à dire. Philippe Gonigam, hein, on a parlé du football avec certaines limites, un certain culte de la performance, il y a du business, il y a du dopage parfois. Hein, dans le foot, ça reste assez limité par rapport certainement à d'autres sports. Il faut réussir à garder l'humain au centre. C'est aussi tout l'objet de ce congrès européen de la pastorale du sport que vous avez organisé.
C'est juste. C'est juste, on parlait de la culture de la performance, la culture de la... De l'efficacité et les Jeux Olympiques nous ont même appris qu'on ne parlait même plus de performance mais de haute performance et donc préparer des jeunes à la haute performance comme on le disait dans l'introduction ça amène à des moyens qui ressemblent parfois même à de la maltraitance et je pense que le chemin de la performance nous dans l'Église on le voit plutôt comme un chemin de perfection qui peut toucher tout le monde. Puisque la performance, c'est de la culture de l'exception, alors que la perfection, c'est de la culture individuelle de progresser tous les jours dans nos domaines d'activité. Et je trouve que c'est beaucoup plus juste.
Ouais. Isabelle de Châtelut.
Oui, il est bon de noter aujourd'hui que le sport évolue énormément. Le sport prend une nouvelle dimension, peut-être plus individuelle. Ce qui est certainement regrettable. Et pour autant, dans une société où je vois surtout les jeunes qui cherchent des repères, qui cherchent à retrouver une communion entre eux, le sport reste vraiment un lieu extraordinaire pour cultiver du lien, pour cultiver mon rapport à l'autre, pour sortir de chez soi. Et je remercie nos évêques qui ont pris l'initiative cette année de concrétiser l'héritage des Jeux en ouvrant une pastorale du sport au sein de la conférence des évêques.
Merci vraiment à tous les deux d'avoir été avec nous dans cette émission. Je pense donc j'agis. Isabelle de Châtelu, chargée de mission sport à la CEF, à la Conférence des évêques de France, et puis responsable d'Holy Games. Merci Philippe Gonigam également pour votre participation, délégué épiscopal pour la pastorale du sport dans le diocèse de Metz. Metz où vous vous trouviez aujourd'hui dans le studio. On remercie d'ailleurs toute l'équipe. Merci à Pierre-Henri, Sabine, Camille qui ont permis la réalisation de cette émission ce matin. On va se retrouver demain pour finir la semaine. On parlera du train de nuit. Est-ce que c'est un transport à remettre sur les rails? Bonne question, on verra ça demain. En attendant, je vous laisse tout de suite avec Marie-Ange de Montesquieu pour l'émission En quête de sens. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour Melchior. On va parler encore une fois d'intelligence artificielle. Comment faire confiance tout simplement à son intelligence, hein, malgré l'IA? Le côté fake ou pas, le côté GPS ou pas, etc., etc. Bref, les impacts sur la mémoire. Amélia Matar et Frédéric Vissant sont avec nous, seront avec nous dans quelques instants pour en parler. À tout de suite, les amis.